Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les députés de l'Assemblée nationale adoptent la reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Un feu vert de la majorité contre l'avis du gouvernement qui réclame un deuxième vote. Compte rendu à suivre de ces débats houleux dans l'hémicycle de l'Assemblée.
Nous reviendrons aussi sur l'attaque au couteau d'hier à la préfecture de police de Paris. Un fonctionnaire a tué 4 de ses collègues avant d'être abattu. Ses motivations demeurent floues.
Une marche contre le projet Europa City est prévue ce vendredi de Gonesse au nord de Paris jusqu'à Matignon. Les opposants au complexe commercial demandent au gouvernement de prendre position.
Dans ce journal, nous irons en Égypte où le président Al-Sissi demande à ses partisans de manifester aujourd'hui. Une réponse au mouvement de contestation. La vie est devenue très chère dans le pays, vous l'entendrez.
Et puis nous analyserons le lancement d'un nouvel hebdomadaire papier. C'est La Croix qui prend le risque face à la concurrence numérique. Quand les dissensions entre gouvernement et majorité apparaissent au grand jour, en plein débat sur le projet de loi bioéthique, les députés ont adopté tard hier soir un amendement qui permet la reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger. La mère d'intention pourrait être reconnue par la loi, mais le gouvernement s'y oppose. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Gouvernement qui se retrouvait coincé par sa majorité.
Le gouvernement qui souhaitait bien distinguer la PMA pour toutes de la GPA pour que la réforme se fasse sans douleur. Eh bien, ce qui s'est passé la nuit dernière à l'Assemblée nationale a sonné comme une piqûre de rappel pour le pouvoir. Il y a un Parlement et même si l'Assemblée de la même couleur politique que le gouvernement, il lui arrive de penser par elle-même et notamment sur les questions sociétales comme la GPA. Le recours aux mères porteuses est formellement interdit en France, mais légal dans d'autres pays, y compris au sein de l'Union européenne. Et de plus en plus de couples hétérosexuels comme homosexuels vont à l'étranger pour cela et reviennent avec un enfant. Question donc, quelle existence légale l'État français doit donner à ses enfants? C'est la question qui a agité les députés cette nuit. La fronde vient du député LREM, Jean-Louis Touraine.
Les enfants n'ont pas à supporter le regard que certains peuvent porter sur leurs parents. Ces enfants n'ont rien fait d'illégal. Et même, à aucun moment, ils n'ont entravé l'éthique que nous partageons.
L'Assemblée vote donc un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation conçue par GPA à l'étranger. Le gouvernement s'y oppose et réclame une seconde délibération. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, prend la parole.
Nous avons vraiment dans notre droit un interdit de la GPA. Je sais que ce n'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais c'est en tout cas la règle juridique qui s'impose et celle que le gouvernement souhaite porter. Et c'est une question d'ordre public.
Une majorité qui s'écharpe avec son gouvernement sur une question sensible, de quoi redonner des ailes à l'opposition. Le député LR Thibault Bazin dénonce un double discours sur la GPA.
Vous avez adopté un mécanisme favorisant la reconnaissance de la GPA menée à l'étranger. Vous proclamez une affirmation, c'est interdit. Et en même temps, enfreindre à l'avenir cette interdiction ne sera pas sanctionné. Vous allez même l'aider juridiquement. Quelle hypocrisie!
Et on peut imaginer que ce cafouillage de la majorité va donner du grain à moudre à la Manif pour tous. Elle appelle avec une vingtaine d'autres associations un rassemblement dimanche à Paris contre ce qu'elle appelle la PMA sans père. Et la GPA.
Une mobilisation que vous suivrez pour France Culture. Antoine Marette, merci beaucoup. Je précise par ailleurs que l'exécutif effectivement marche sur des œufs sur la question de la GPA puisqu'il attend une décision de la Cour de cassation qui doit tomber aujourd'hui à propos du statut de la mère d'intention. Il est difficile toujours ce matin d'expliquer pourquoi un employé de la préfecture de police de Paris a tué 4 de ses collègues hier midi. Une attaque au couteau, une 5e personne a été grièvement blessée. L'assaillant, âgé de 45 ans, a lui été tué par balle dans la cour de la préfecture. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour.
Une enquête pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique est ouverte.
Et les enquêteurs creusent toutes les pistes possibles. Un coup de folie, un conflit personnel au travail ou encore, la conversion récente de l'homme à l'islam, une donnée prise en compte, même si pour l'instant, et c'est important de le préciser, rien n'indique qu'il était radicalisé. Son domicile à Gonesse, dans le Val-d'Oise, a été perquisitionné dès hier après-midi. Sa femme, placée en garde à vue, elle est toujours ce matin. Durant son audition, elle a expliqué que son mari a eu des visions et a entendu des voix la nuit qui a précédé son passage à l'acte. Toujours selon elle, il était incohérent. L'enquête se concentre évidemment sur le profil du tueur. Cet agent administratif était informaticien. Il avait été affecté depuis 2003 au service de la direction du renseignement. L'homme de 45 ans, né à Fort-de-France, était malentendant. Ses collègues évoquent un homme discret, un peu introverti, gentil et serviable. Même écho du côté de son voisinage. Cette attaque, en tout cas, va avoir des conséquences dans les rangs de la police. C'est ce que dit Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Il était ce matin chez nos confrères de France Info.
Ça va se rajouter à la fatigue physique et psychologique. C'est forcément négatif dans l'état psychologique. Quand vous êtes policier, vous êtes plutôt là pour aller secourir à l'extérieur et pas vous protéger à l'intérieur.
Cette attaque intervient en effet dans un contexte de malaise au sein de la profession. Les policiers ont encore manifesté avant-hier pour exiger une amélioration de leurs conditions de travail. 52 agents se sont suicidés depuis janvier.
Merci beaucoup Claire Flochel. Et j'ajoute qu'en hommage aux 4 policiers tués, Emmanuel Macron a demandé à ce que le public devant lequel il était hier soir respecte une minute de silence. Car le chef de l'État était hier face à 500 Français dans l'Aveyron à Rodez. Il y a défendu sa réforme des retraites pendant plus de 3 heures, proposant un regroupement des 42 régimes pour un système plus juste et transparent. Emmanuel Macron garantit également que l'âge de départ restera fixé à 62 ans et qu'aucune retraite pleine ne sera inférieure à 1000 euros par mois. Le président VRP de la réforme des retraites, voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss qui nous rejoindra après ce journal. Autre chantier du gouvernement, la lutte contre le réchauffement climatique. 150 personnes tirées au sort vont débuter aujourd'hui leurs travaux au sein de la Convention citoyenne pour le climat, une sorte de réponse aux gilets jaunes. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui lancera cette convention à partir de 14h cet après-midi. C'est pour préserver leurs terres que des agriculteurs, des écologistes, riverains et ONG se mobilisent dans le nord de Paris. Ils ne veulent pas d'un projet appelé Europa City, projet de méga complexe commercial dans le triangle de Gonesse, au nord de Paris donc. Si le plan local d'urbanisme a été retoqué par la justice, elle a en revanche validé la création d'une ZAC, une zone d'aménagement concertée. Là-dessus, le gouvernement ne prend pas position et c'est pour que le gouvernement les soutienne que les opposants au projet organisent aujourd'hui une grande marche jusqu'à Matignon, Anne Lorchouin.
La bataille juridique entre opposants et partisans du projet continue et celle de la communication fait rage. Les parties prenantes ont été reçues par Elisabeth Borne qui leur a fait savoir que le dossier était désormais entre les mains du Premier ministre. C'est donc à Matignon que les organisateurs de la marche vont porter leur message. Un message qui s'est étoffé d'un projet alternative sur ces terres, coincées entre les aéroports de Roissy et du Bourget. Ils souhaitent installer un laboratoire de la transition écologique, le projet Karma. Robert Spizzichino, ingénieur urbaniste et président de l'association du même nom.
Au départ, on a proposé un projet basé sur la question de l'agroécologie au service de la santé alimentaire pour donner une idée de ce que peut être la reconstruction de la ceinture maraîchère du Grand Paris telle qu'elle existait. Puis, nous sommes passés à une autre étape qui nous paraît essentielle aujourd'hui, celle d'un projet de transition écologique sur l'ensemble du territoire. C'est un projet qui se veut un démonstrateur national.
Du côté des partisans d'Europa City, au premier rang desquels les élus du Val d'Oise, la contre-offensive s'organise via notamment une conférence de presse. Pour eux, l'abandon éventuel d'Europa City serait une preuve de plus que ce territoire, pauvre et enclavé, est encore une fois laissé de côté. Patrick Renaud, président de la communauté d'agglomération de Roissy.
On a besoin de développer des emplois qui soient formidables pour cette banlieue qu'on a bien besoin. Il y a un taux de chômage de 30% sur le secteur, alors que c'est nous qui créons le plus d'emplois autour de Roissy. Vous croyez que ça va être accepté longtemps ?
Europa City qui cristallise deux visions presque opposées de la croissance et de la société. Désormais, chaque camp attend la parole gouvernementale.
C'était Anne Lorchouin.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En Égypte, les partisans du président Al-Sissi sont appelés à se rassembler aujourd'hui.
Oui, c'est une sorte de réponse au mouvement de contestation qui s'installe dans le pays. Il y a 2 semaines, plusieurs milliers d'Égyptiens étaient descendus dans la rue, au contraire, contre la situation économique et sociale très difficile du pays. Ils accusent le président Al-Sissi d'investir dans des projets trop coûteux, d'avoir emprunté au FMI en échange de réformes draconiennes. Et les effets sur le quotidien des Égyptiens est terrible, Frédéric Mettezo.
Création d'une TVA, dévaluation de la monnaie, hausse des prix, le niveau de vie des Égyptiens s'effondre. Raef travaille dans le bâtiment 10 heures par jour avec juste 2 week-ends par mois. Sa femme ne travaille pas, il élève 2 filles et héberge sa mère. La moitié de son salaire passe dans son logement.
Tout augmente, les loyers, l'essence, les transports, ça devient très compliqué. À mon âge, je devrais pouvoir m'acheter un appartement, mais je ne sais pas comment quand tout devient si cher.
Pendant longtemps, Georges a fait partie de la classe moyenne aisée, ce dirigeant d'entreprise. Gagne 5 fois plus que Raef l'ouvrier, mais lui aussi est dépassé.
Un simple exemple, j'ai une voiture que j'utilisais pour aller au travail et mes filles allaient à l'école en bus, mais le prix du transport scolaire a triplé, donc je ne peux plus payer et j'ai laissé la voiture à ma femme pour qu'elle conduise les filles.
Mais le gouvernement et les milieux d'affaires s'accrochent aux chiffres de la croissance en hausse à plus de 5%. Salah est cadre dans une banque. Il y a des problèmes, bien sûr, mais il y a eu des progrès. Une révolution, un mouvement social nous ferait reculer. Nous avons juste besoin de patience, de solidarité et de soutenir les grands projets du gouvernement. Un tiers des Égyptiens vivent dans la grande pauvreté. Depuis la révolution de 2011, l'Égypte a gagné 14 millions d'habitants.
Et c'est pour les mêmes raisons sociales et économiques que des manifestations ont lieu en Irak depuis 3 jours. Là, ce n'est pas l'emprisonnement qui guette les manifestants, mais la répression violente. En 3 jours, au moins 27 personnes ont été tuées, 600 autres ont été blessées. Comment trouver 14 milliards de dollars d'ici la semaine prochaine? Le Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose œuvre pour une nouvelle année de lutte. Pour le grand reportage de la rédaction, nous nous sommes intéressés à l'aide que ce fonds apporte aux ONG, et notamment au Maroc, un pays qui punit les relations homosexuelles et les relations hors mariage. Tara Schlegel s'y est rendue. L'association de lutte contre le VIH dans le pays a besoin de cette aide internationale pour exister. Sa fondatrice, Hakima Imish, infectiologue, s'en explique.
Quand le Fonds mondial a été créé en 2001, jamais on n'aurait pensé qu'on aurait 45% à 50% des patients qui recevraient le traitement, qu'on ferait baisser les prix dans tous les pays du Sud, que dans tous les pays, même les pays où il y a des lois répressives, on amènerait les pays à avoir des programmes de prévention qui s'adressent à ces populations. Le Maroc, le ministère de la Santé, avec l'argent du Fonds mondial, c'est lui qui nous finance le projet de prévention auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est criminalisé au Maroc, les relations homosexuelles. Auprès des professionnels du sexe, la prostitution est criminalisée. Auprès des usagers de drogue, pareil. Et donc, officiellement, c'est le ministère de la Santé qui nous achète, dans un pays arabo-musulman, à peu près 7 à 8 millions d'unités de préservatifs par an. Et bien ça, du gel pour les relations entre hommes, jamais on n'aurait pu l'avoir sans le Fonds mondial. Mais n'empêche que si le Fonds mondial s'arrête demain, et on a dû vous le dire, qui va fournir les préservatifs? Qui va financer la prévention? C'est un volet qui va s'effondrer, mais complètement.
C'était Hakima Imish, présidente, fondatrice de l'association de lutte contre le VIH au Maroc, interrogée par Tara Schlegel, que nous retrouverons ce soir sur France Culture à partir de 17h pour son grand reportage intitulé « Lutte contre le sida au Maroc, un financement en danger ». Un reportage réalisé grâce à Annie Bro. Il sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. D'ici là, poursuivons les matins et ce journal. Les eurodéputés ont rejeté hier l'ultime plan du Premier ministre britannique à propos du Brexit. Ils estiment que ce plan cause du tort à l'économie irlandaise et qu'il manque pour l'instant de détails. Boris Johnson a rappelé, lui, que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura lieu, quoi qu'il arrive, le 31 octobre, c'est-à-dire dans 27 jours. Et c'est en plein débat sur le Brexit qu'une toile de l'artiste Banksy, représentant le Parlement britannique peuplé de singes, a été adjugée hier soir à près de 11 millions d'euros, bien plus que l'évaluation. L'identité de l'acquéreur n'a pas été divulguée. Miser sur le papier et sur l'information positive. Le quotidien La Croix lance aujourd'hui son hebdomadaire papier, ce qui peut étonner en ces temps de concurrence numérique. Cet hebdomadaire s'appelle La Croix l'Hebdo et le premier numéro est donc publié ce vendredi après 3 ans de préparation. Abdelhak El Idrissi.
La sortie de La Croix l'Hebdo devait se faire il y a plusieurs mois déjà, mais les responsables ont préféré décaler l'événement pour tester encore et encore sa formule et pour éviter le même sort que les publications Vraiment et Hebdo. Mais à la différence de ces deux publications qui ont mis la clé sous la porte, La Croix l'Hebdo peut s'appuyer sur une base de lecteurs parmi les fidèles du quotidien La Croix, vendu à 67 000 exemplaires par jour. L'objectif fixé à l'hebdomadaire est de 25 000 ventes, mais le propriétaire, le groupe Bayard Presse, assure qu'il donnera le temps qu'il faut à La Croix l'Hebdo pour atteindre son objectif. Pour y arriver, les journalistes misent sur l'exploration du monde, sur un ralentissement de l'information et surtout sur une vision positive de l'actualité. Afin de renouer la confiance entre les médias et les citoyens, La Croix l'Hebdo fait le choix de l'interactivité. Les journalistes vont expliquer et justifier le choix des sujets traités. Le résultat se retrouvera dans des numéros d'une soixantaine de pages au format tabloïd, avec peu de publicité à l'intérieur. La Croix l'Hebdo ne comportera pas de rubrique religion, contrairement au quotidien, et souhaite élargir et surtout rajeunir son lectorat, le grand défi de la presse aujourd'hui.
Le temps sera pluvieux en ce 4 octobre, vendredi, pluvieux sur le nord et l'est de la France, nuageux sur le reste du pays. Comptez ce matin 10 degrés à Strasbourg, 14 à Lille, 15 degrés à Amiens, 16 à Rennes et 22 sur la Corse.